Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Karine Milsan.
Bonjour.
Docteur en économie, chargé de recherche au CNRS, vous enseignez l'économie de la santé à l'École d'économie de Paris après avoir vécu 10 ans en Chine. Je voudrais qu'on rembobine avec vous le film de cette pandémie qui, au fur et à mesure qu'elle dévaste et paralyse les pays développés, rend miraculeux ou invraisemblable le bilan chinois. Je rappelle un peu plus de 3000 décès et 80 000 cas pour 1 milliard 300 millions d'habitants, soit le plus petit ratio de tous les grands pays. D'abord, la naissance de l'épidémie à Wuhan en décembre, mais peut-être bien plus tôt. Elle a été étouffée, minorée ?
Elle a été gérée d'abord de façon locale, c'est-à-dire qu'elle, enfin locale, elle a été gérée au niveau de la province, donc au niveau du Hubei, puisque c'est là qu'elle est apparue. Et il a fallu quelques semaines pour se rendre compte de sa gravité et pour que ça monte en fait, au niveau de l'État central. Donc l'OMS a été alertée par l'arrivée de ce virus inconnu à la fin du mois de décembre.
Oui. Et ensuite, les autorités chinoises ont attendu le 22 janvier. Enfin, elles ont réagi très fortement à ce moment-là avec la mise en confinement et le verrouillage complet de Wuhan et de sa province. Est-ce qu'il est vraisemblable que pendant ces trois premières semaines de janvier, le virus ne se soit pas répandu largement dans tout le pays?
C'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est que lorsque l'État central a repris la main sur le virus, il l'a fait au moment où ça s'était répandu au sein de la province. Et quand on regarde en fait les chiffres ou du moins leur évolution sur l'ensemble du territoire, on voit que l'évolution a été très très forte dans la province de Hubei, dans la province où il y avait cette fameuse ville de Wuhan où a commencé où les choses ont commencé dans un marché, et que les chiffres se sont peu augmentés à l'extérieur de cette province. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que les choses ont eu lieu juste avant le Nouvel An chinois. Donc à un moment où un grand nombre de personnes sont parties rejoindre leur famille, puisque vous savez qu'en Chine, les migrants très, très souvent quittent leur foyer sans enfants, ils y laissent les enfants avec les grands-parents pour aller travailler. Et donc les grandes fêtes chinoises sont l'occasion de retrouvailles familiales. Donc ça a eu lieu au moment en fait de cette fête chinoise, et donc à un moment où les gens avaient déjà commencé à migrer pour aller voir leur famille. Mais malgré tout, il semble que le fait d'avoir totalement confiné, totalement arrêté toute chose, tout déplacement de façon très très sévère et très autoritaire et très dure, avec un traquage très très serré des gens, c'est-à-dire que lorsqu'ils même sortaient de chez eux, ils étaient rappelés à l'ordre. Eh bien, ça a eu un effet très fort sur la province de Hubei. Et si on regarde les chiffres, il n'y a pas eu tant de cas que ça à l'extérieur. Si on s'extrapole des chiffres, si on va au-delà des chiffres et qu'on commence à se dire oui, peut-être que les chiffres ne sont pas réalistes, malgré tout, on peut observer qu'il n'y a pas une tendance délirante à l'extérieur de cette province.
Ah ben, c'est moins qu'on puisse dire, parce que si, d'après les chiffres officiels, en dehors de la province du Hubei, la Chine a été épargnée par l'épidémie. C'est moins de 200 décès annoncés dans le reste du pays. C'est aussi cela qui jette le trouble, Karine Milsan.
Il faut pas s'arrêter sur les chiffres. Il faut pas commenter ces chiffres, à mon sens. C'est pas le chiffre lui-même qui doit nous indiquer des choses, mais plutôt son écart par rapport au chiffre de la province. Il y a plusieurs éléments à prendre en considération. C'est que vous avez une offre en Chine qui peut être très hétérogène à l'intérieur d'une même province, c'est-à-dire que l'offre de soins n'est pas du tout identique à l'intérieur de chaque province, entre des zones rurales et des zones urbaines. Vous pouvez me répondre, en France, on peut dire que c'est la même chose avec les déserts médicaux. Ma réponse sera non, parce que l'offre de soins, c'est-à-dire le niveau de qualification du personnel soignant, est très très différent suivant l'endroit où vous vous trouvez. Il est différent parce qu'il est inscrit comme ça, c'est-à-dire que le niveau de diplôme demandé, l'examen pour devenir médecin, suivant la structure où vous allez exercer, ne sera pas la même. Vous n'aurez pas à passer le même examen si vous vous projetez, enfin si vous allez exercer dans un petit centre de santé, ou bien alors dans un petit hôpital, ou bien alors si vous voulez aller exercer dans un hôpital de l'ordre de notre de nos CHU, où là le niveau de formation sera comparable à nos CHU, alors que partout ailleurs ce sera pas comparable à nos CHU. Donc ça, ce sont des éléments, si vous voulez, qui vont jouer dans les chiffres que l'on peut observer. Parallèlement, vous avez également des éléments d'accessibilité en Chine. En France, on a une accessibilité aux soins, pas discuté, mais malgré tout, on a une forme de gratuité aux soins, ou du moins un reste à charge relativement faible. En Chine, ça n'est pas du tout le cas. Vous avez beau avoir des assurances publiques, vous avez trois sortes d'assurances publiques pour les urbains, les ruraux et les migrants. Malgré tout, vous avez un reste à charge très important, et puis ces assurances définissent un panier qui est de soins qui va vous être remboursé ou partiellement pris en charge. Et évidemment, quand vous êtes dans un cas d'épidémie, eh bien dans ce panier, vous n'avez pas la prise en charge pour ce virus. Et donc, vous êtes dans une situation, en fait, où vous allez avoir un reste à charge important, dans une situation où on vous dit en même temps qu'on va vous confiner, donc vous voyez votre activité économique s'arrêter. Donc tout ça sont des facteurs qui vont faire que les gens vont préférer rester chez eux, ne pas forcément se rendre à l'hôpital alors qu'ils se savent malades. Et donc vous allez avoir des personnes qui vont échapper, si vous voulez, statistiquement aux chiffres qui vont être donnés, puisque ce sont des chiffres au sein des structures hospitalières. Quand vous avez un système de santé qui est très performant, le résultat, c'est que vous allez pouvoir avoir une vision plus claire, même si ça reste un intervalle d'erreur, mais davantage claire sur la situation critique au sein de votre pays. Lorsque vous avez un système de santé qui n'a pas la performance des systèmes de santé, dans l'accessibilité j'entends, hein, des systèmes de santé qu'on peut observer en Europe par exemple, ou même en Corée du Sud, à Taïwan, à Singapour, eh bien vous êtes dans un cas où vous allez avoir un intervalle d'erreur sur les personnes qui sont potentiellement décédées de par cette épidémie qui sera beaucoup plus large. Et enfin, vous avez tout ce qui est polypathologique, c'est-à-dire que vous savez comme moi que cette épidémie va s'attaquer en priorité sur les personnes qui sont fragilisés, qui sont les cas les plus sensibles sont les personnes qui peuvent être avec maladie chronique. Et donc ensuite, il y a quelque chose un peu morbide, mais c'est l'affectation en fait du décès. Est-ce que vous allez l'attribuer à une des pathologies portées par cette personne, ou bien alors au Covid? Donc toutes ces questions vont faire que vous allez avoir un intervalle d'erreur qui sera d'autant plus grand que votre système de santé est performant. Et aussi l'information que vous récoltez de votre système de santé. En France, on a un système de santé avec un programme médical, un système d'information sur les hôpitaux qui fait que on est à même d'avoir une information très précise sur ce qui se passe au sein des établissements hospitaliers. En Chine, on n'a pas cette exhaustivité dans le recueil de l'information des établissements hospitaliers. Donc ça crée également des variances et des différences dans ce qu'on peut observer.
Et puis j'entends ce que vous dites sur le système
pour les
de
chiffres, vous...
Oui, j'entends ce que vous dites sur le système de santé chinois, Karim Ilsan, avec éventuellement tous ces malades et voire des décès qui n'ont pas transité par le système hospitalier, qui n'ont pas été pris en compte dans les statistiques officielles, mais il n'empêche qu'on peut tout de même penser que ce bilan minoré a pu contribuer à retarder la prise de conscience mondiale sur le danger de ce virus et le risque d'une pandémie.
Vous avez raison, et en même temps il faut voir que la Chine est un pays de 1,4 milliard, et que donc ils ont aussi à gérer deux phénomènes. Ils ont effectivement à alerter l'opinion internationale sur la question, et ils ont alerté l'OMS. Ils ont également à gérer une situation intérieure avec une très très forte inégalité sociale et peu de protection sociale. Donc quand vous confinez, et c'est pas seulement dans la province de Wuhan que les gens ont été confinés, ils ont été confinés de façon très très dure dans la province de Wuhan, mais partout ailleurs en Chine, les gens se retrouvent dans des situations où ils ne pouvaient pas se rendre à leur lieu de travail, et lorsqu'ils pouvaient télétravailler, eh bien ils pouvaient le faire, mais il y a toute une bande de la population qui ne pouvait pas télétravailler, comme vous pouvez observer en France, mais avec une inégalité, si vous voulez, sociale beaucoup plus forte. Et donc vous avez en fait un État chinois qui doit gérer à la fois sa société civile, éviter un débordement social donc à travers les chiffres qu'il va communiquer, et puis en même temps suffisamment alerter l'extérieur sur la gravité. Donc si vous regardez de façon Les chiffres pour les chiffres, vous allez, il est évident qu'ils ont minoré les chiffres. Et d'ailleurs, il y a un document des renseignements américains qui a été relevé par l'agence Bloomberg et qui en fait état. Pardon ?
Qui parle de mensonges, effectivement.
Et qui en fait parfaitement état. Voilà, c'est ça. Mais en parallèle, il faut voir que si vous regardez 20 ans en arrière et si vous regardez l'épisode du SRAS qui a eu lieu en Chine, plus au sud, enfin ça avait beaucoup touché Hong Kong, mais également la Chine, vous avez une totale opacité sur ce qu'il s'est réellement passé en Chine. Donc si vous voulez, du point de vue historique chinois, il y a eu un énorme effort de communication sur l'arrivée de cette épidémie. Maintenant, si vous regardez par rapport à la manière dont nous communiquons et comment, effectivement, nous n'aurions pas forcément communiqué de la même manière, et donc de ce fait, il est possible aussi que les chiffres, s'ils avaient été plus élevés, nous auraient amené à changer la rapidité avec laquelle nous avons géré la crise. Mais il faut vraiment pas perdre de vue qu'il s'agit ici d'un pays de 1,4 milliard, qu'il faut qu'il gère une population pour laquelle ils avaient très rapidement après l'annonce en fait de cette épidémie, quelques semaines plus tard, ils ont carrément fermé toute une province. Donc ça voulait dire obliger très sévèrement, en traquant les gens très fortement, ils les ont obligés à rester dans leur logement, sachant que quand vous êtes dans un pays avec une énorme disparité sociale, ça implique des logements d'une grande insalubrité, avec des conditions d'hygiène assez terribles. Et avec également des gens qui, comme vous avez moins de protection sociale, des gens qui se retrouvaient avec juste leur économie, mais des économies qui étaient d'un niveau très faible. Et donc de ce fait, vous ne pouvez pas de plus ajouter à tout cela une dose d'anxiété beaucoup plus grande. Donc comme vous êtes dans un intervalle d'erreur qui est beaucoup plus large que celui qu'on peut observer en France de par nos systèmes de santé qui est plus précis, qui permet des choses plus précises, eh bien, vous allez opter pour minorer au plus possible les choses. Et vous êtes quand même dans un état autoritaire, il faut quand même pas le négliger. Et de ce fait, il y a des décisions qui sont des décisions politiques également. Donc, est évident que les chiffres qui sont donnés sont aussi le fruit du régime politique chinois. Même s'il y a un effort par rapport à il y a 20 ans, on est quand même dans un état qui est totalement autoritaire, et donc on a aussi la résultante de cet état autoritaire.
Évidemment, et qui met une chape hermétique sur la société civile pour autant. Juste
un tout dernier point, juste deux minutes. Juste, si vous regardez la grippe, si vous regardez un tout petit peu en arrière, vous pourrez quand même vous apercevoir que de toute façon, les chiffres réels, si vous voulez, avec ce degré d'erreur minimisé, c'est toujours des choses que l'on peut avoir que rétrospectivement. Aujourd'hui en France, si on regarde ce qui se passe, on sait qu'on a des chiffres, mais des chiffres liés à l'hospitalisation. Il y a toute la question des EHPAD, où on a moins d'informations sur ce qui se passe, parce que ça demande en fait un certain recul pour être capable d'analyser et de voir ce qui peut être affecté à l'épidémie ou pas. Donc vous imaginez qu'en Chine, c'est démultiplié de par le système.
Merci beaucoup Karine Milsan, chargée de recherche au CNRS. Merci de nous avoir éclairé ce matin.